Raphaël Planas, bienvenue sur Fréquence Mistral, une émission particulière aujourd'hui puisqu'elle ne se fait pas dans les studios de Fréquence Mistral mais plutôt en terrain. On se trouve donc autour du lac de pêche de Gobert. On va, en marchant comme ça, découvrir un peu les sons.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Raphaël Planas. J'ai l'entreprise Alpes Provence Nature et ce soir, je suis avec Marion Masson qui est avec nous en stage pour tout l'été.
Ouais. Alors, votre travail consiste à quoi et qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette émission spéciale dehors aujourd'hui?
Alors, notre travail consiste à connaître et faire connaître la nature dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, on touche un petit peu à tous les thèmes parce qu'on aime tout dans la nature. Tout nous passionne et ce soir, plus particulièrement, on va parler des castors.
Il y a des castors donc ici, à Digne ou au plan de Gobert?
Oui, en fait il y a une grande biodiversité juste au pied de Digne, autour de Digne. On trouve plein d'espèces qui sont très particulières, qui sont rares ou qui sont intéressantes. Et notamment, les castors sont bien présents sur la Bléone et très présents sur Gobert, avec des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas, on peut observer leur présence et on va voir qu'il y a plein d'indices qui nous montrent qu'ils sont là et qu'ils font leur vie juste à côté de nos maisons.
Je suis très surprise d'apprendre qu'il y a des castors à Digne. J'ai toujours pensé que les castors, on les trouvait plus au Canada.
Oui, ce sont des animaux qui sont bien présents là-bas et qui font des énormes barrages et qui ont un gros impact sur la nature là-bas. Chez nous, ils étaient présents avant et ils ont été exterminés pour la fourrure et le castoréum. Le castoréum étant une glande sur leur corps et qui produit un parfum très marqué qui servait en cosmétique notamment et qui servait aussi en pharmacologie. Donc, on les chassait pour ça. Et puis, on les a protégés aujourd'hui et il en restait très peu, mais quelques-uns sur la vallée du Rhône. On s'est rendu compte que l'impact sur les rivières était très intéressant parce qu'ils coupent les jeunes arbres, notamment les saules comme ceux qu'on a devant nous. Mmh. Et en les coupant, ça fait des buissons. Et ces buissons, si jamais il y a une crue, vont ralentir le courant. Donc ils vont ralentir l'impact de l'eau et éviter qu'il y ait des grosses catastrophes lorsqu'il y a une crue d'une rivière, surtout sur les fleuves comme le Rhône ou la Loire. Donc on les a réintroduits sur la Loire et aujourd'hui ils remontent, puisqu'ils sont protégés, ils sont plus nombreux, et ils remontent tous les affluents du Rhône et de la Loire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on les a jusqu'à Digne et qu'ils remontent encore la vallée de l'As, etc. Donc ils commencent à reprendre leur place un peu partout.
Et alors au niveau prolifération, ça se reproduit, ça peut vraiment être un très grand nombre. Et quels seraient les inconvénients?
Alors ils se régulent par rapport à la nourriture qu'ils trouvent et puis par rapport à leur territoire. En général, ils ont 1 km à 2 km de longueur de rivière comme territoire. C'est-à-dire qu'en tout, comme ils prennent les deux berges de la rivière, ça leur fait 5-6 km de territoire. Mais après, ils vont remonter les rivières. Leur impact n'est pas si important que ça. Ils vont quand même faire tomber 200 à 300 arbres par an. Mais en général, c'est des petits arbustes qui font 5-10 cm de diamètre. Il arrive parfois que par facilité, ils s'attaquent à des plantations qui sont près de l'eau. Et là, ils vont gêner l'homme parce qu'ils vont causer des problèmes économiques. Mais sinon, leur impact est exclusivement positif parce qu'ils ne mangent rien à part de la végétation. Et ils permettent à la rivière d'être entretenue du fait de cet entretien des arbres qui protègent les berges.
Donc c'est parti, autour du lac de Gobert.
Le soir, c'est la meilleure heure pour venir. La nature se rafraîchit un petit peu en cette période estivale, avec enfin des températures qui correspondent à la saison. Et les castors n'aiment pas du tout quand il fait chaud. Ils ont beaucoup de mal à réguler leur température, ils ont une grosse fourrure et donc ils n'arrivent pas à être bien quand il fait au-dessus de 20 degrés. Alors là, on arrive au bord du plan d'eau de Gobert et il y a des indices qui nous montrent qu'il y a des castors pas loin. Alors je vais chercher les filles.
Alors
sous les mottes d'herbes et d'arbustes qui sont au bord de l'eau, non?
Non, alors oui, on voit la berge sous les mottes d'herbe qu'il y a autour de l'eau, mais si vous regardez sur l'île en face, qui est juste en face de nous, vous allez voir qu'il y a déjà des arbres qui sont clairsemés, et puis juste au bord de l'eau, il y a un tas de branches. Est-ce que vous voyez le tas de branches?
Oui.
Voilà. Alors, ce tas de branches peut correspondre à plusieurs choses. Mais le castor que l'on a chez nous va creuser dans l'eau un terrier. Donc, ça dépend de la profondeur de l'eau, mais des fois à 3 ou 4 mètres, il va commencer à creuser avec ses pattes. Et puis, il va faire un grand tunnel qui va remonter à l'intérieur de la digue. Et quand il sera à peu près à 1 mètre au-dessus du niveau d'eau, il va faire une chambre qui fait à peu près 50 cm de haut sur 1 mètre de diamètre. Et là, il va faire son terrier. Quand, au fur et à mesure des passages, au fur et à mesure des saisons, la terre commence un peu à s'effondrer et que le tunnel commence à être un peu mis à jour, il rajoute des branches pour renforcer la fermeture du terrier et pour éviter que les prédateurs puissent rentrer. Donc le tas que l'on a en face de nous, en fait, c'est l'entrée du terrier du castor, cette entrée qui est souterraine, hein, puisque le castor est un animal qui est bien plus à l'aise dans l'eau que sur la terre. Il a des pattes arrière qui sont palmées, il fait 20 kilos, donc s'il doit se déplacer sur la terre, c'est une catastrophe. On peut le rattraper en marchant. C'est pour ça qu'il essaye de rester dans l'eau, parce que là, il devient très très agile. Voilà. Et puis si vous regardez, en fait, sur la gauche, on a aussi un petit arbuste dont l'écorce est enlevée, ça fait tout clair sur le tronc. Mmh. Donc voilà, c'est un arbuste qui a été écorcé et dont les branches ont été enlevées par les castors. Les castors se nourrissent de feuilles. Donc ils vont manger les feuilles qui sont ou les herbes qui sont dans l'eau ou près de l'eau. Et pour l'hiver, ils font des stocks et donc ils coupent des branches qu'ils mettent sous l'eau, qui vont leur servir de réserve pour avoir des feuilles pendant l'hiver. Voilà, c'est pour ça que parfois ils font tomber les arbres et ça embête certains propriétaires qui habitent au bord de la rivière ou qui ont fait des plantations près de la rivière. On va faire le tour.
Alors,
on va partir à droite.
Bonjour. Ils savent qu'il y a un micro.
On est là, là. Oui, c'est ça. Alors, sais-tu comment le mâle de canard colvert séduit la femelle?
Oh, il doit déployer ses plus beaux atouts.
Alors, son plus bel atout, bien sûr, il y a sa tête de canard colvert, bien voilà. Bleu-vert, qui est très très joli, qui plaît beaucoup à la femelle. Mais le détail technique qui tue.
Il lui pêche quelque chose?
Non. Il a une petite plume, alors on va essayer de trouver un mâle qui soit pas trop loin, parce que là, ce sont tous des jeunes, donc ils sont pas encore marqués au niveau des couleurs, ce sont pas des reproducteurs. Là, on a un petit mâle, le deuxième, tu vois, qui revient vers nous, là, qui vient de mettre son bec dans l'eau. Derrière, il a une petite plume sur son derrière qui rebique. Est-ce que tu vois cette petite plume qui rebique?
Oui. Voilà.
En général, ils en ont 2 ou 3 comme ça. Et plus la plume rebique, plus elle est longue et rebiquée, mieux ça plaît à la femelle.
Ah ah.
Voilà.
Mais ça n'a rien à voir avec la sexualité.
Non, c'est juste un atout.
D'accord. Décoratif.
Décoratif, de plumes, voilà. Mais la femelle associe ça à une fécondité particulière et donc elle choisit plutôt les mâles comme ça. Voilà. Les canards colverts, oui, ne sont pas particulièrement rares. Et le souci qu'on a par rapport à eux, c'est qu'ils s'hybrident beaucoup avec des canards familiers, quoi, des canards qu'on a pour l'élevage. Et donc, ça pollue génétiquement l'espèce sauvage. Ils sont très contents de nous voir ce soir.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Alors, on a fait le tour du plan d'eau de Gobert. Et là, on est à l'endroit où l'eau sort. Et les castors donc, n'aiment pas manger sur la terre ferme. Avec leurs pattes palmées, ils n'arrivent pas à rester sur la terre ferme. Ils n'arrivent pas à partir vite s'il y a un prédateur ou s'il y a quelqu'un qui les dérange. Donc, ils préfèrent manger dans l'eau. Ils vont à peu près tout faire dans l'eau. Ils vont faire leurs besoins, ils vont se baigner. Enfin bref, ils aiment bien rester tout le temps dans l'eau. Et on voit au fond de l'eau, là, plein de bouts de bois qui sont écorcés, dont l'écorce a été enlevée. Donc ces bouts de bois, ce sont les restes de nourrissage des castors. Donc là, on les voit particulièrement parce qu'à cet endroit, près de la sortie d'eau, le plan d'eau est plus profond. Et donc ça leur plaît bien de venir manger ici. D'autant plus qu'on est encore autour de l'île qu'ils habitent. Et donc c'est vraiment leur territoire et c'est l'endroit où ils viennent se nourrir. Voilà. On va continuer plus loin,
Ils se nourrissent d'écorces de bois.
Oui, ils se nourrissent des écorces, sous lesquelles il y a de la sève et ça leur plaît particulièrement. Et leur principale nourriture, c'est les feuilles et les herbes aquatiques ou du bord de l'eau. Donc ils sont végétariens. Voilà.
Et ils sont aussi bien sur l'eau que sous l'eau?
Oui, ils peuvent rester jusqu'à 15 minutes sous l'eau. Ils sont vraiment équipés pour être sous l'eau. Ils ont des paupières transparentes qui se mettent sur leurs yeux pour leur faire des lunettes pour pouvoir aller sous l'eau. Ils ont des petits clapets qui ferment leurs oreilles et leurs narines. Donc ils ne peuvent pas boire la tasse. Et même s'ils partent dans l'eau avec un bout de bois dans la bouche, ils ont devant 4 dents qui sont assez longues et des incisives qui vont leur permettre de couper les bouts de bois. Et au fond, des molaires comme nous. Donc entre les deux, il y a un vide et ça leur permet de mettre des branches dans ce vide. Ils peuvent fermer les molaires et comme ça, l'eau ne rentre pas à l'arrière de la bouche et ils ne boivent jamais la tasse, même s'ils vont sous l'eau.
Et alors, on devrait réussir à en voir à une certaine heure de la journée ou pas ?
C'est pas simple. Au printemps, on peut les voir sortir en fin de journée ou en tout début de matinée parce qu'ils ont les petits et qu'il faut aller chercher beaucoup de nourriture. Ils mangent 1 kg à 2 kg de feuilles par jour, donc ils ont besoin de sortir beaucoup. À cette période-là, les petits commencent à être autonomes et du coup, ils vont sortir exclusivement la nuit. Par contre, quand la nuit est claire, comme en ce moment où on a des belles lunes, on peut voir leur silhouette. C'est quand même une bestiole qui fait 20 kg, donc elle passe pas inaperçue sur le bord du plan d'eau, d'autant plus que c'est assez bruyant. Alors ils vont avoir une activité très discontinue, c'est-à-dire qu'ils vont couper un arbre, faire beaucoup de boucan, puis ça s'arrête. Ils écoutent pour vérifier qu'il n'y a personne autour et ils reprennent. Voilà. Donc c'est pas la bestiole la plus discrète qu'on connaisse, quoi.
Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre le travail d'un castor mâle et les castors femelles ?
Ah, les femelles sont toujours beaucoup plus subtiles. Non, je plaisante. Non, il n'y a aucune différence. Les mâles et femelles vont faire le même boulot. En général, ils prennent des arbres qui sont à leur taille. On va en voir là en se déplaçant dans la forêt. Donc, c'est-à-dire des arbres qui font 10-15 cm. Il y en a certains qui ont les yeux plus gros que le ventre. Ils peuvent parfois couper un arbre qui fait 1 mètre de diamètre. Mais c'est rare qu'ils arrivent jusqu'au bout. Et donc là, par contre, ça fait râler les êtres humains parce que c'est des beaux arbres qui sont gros, qui sont imposants. Et ils sont commencés, mais pas terminés. Donc le castor fait le tour, en fait. Hein, avec ses dents, il va tourner sa tête sur le côté et il tourne autour de l'arbre. Ce qui fait qu'il taille au fur et à mesure et ça donne une forme de crayon à l'arbre. On va en voir là, on se déplace.
Et alors, est-ce qu'il y a des arbres, des espèces qui préfèrent certainement ?
Tous les arbres qui sont près de l'eau. Ils ont une distance de 20 à 30 mètres de l'eau. Ils vont pas plus loin que ça, parce que c'est leur distance de sécurité pour pouvoir fuir et se mettre en sécurité dans l'eau.
Donc ça veut dire que ça peut être un saule pleureur, ça peut être quoi ?
Ça peut être un saule pleureur, ça peut être un peuplier, ça peut être un bouleau. Il y a certains endroits où on va trouver aussi des frênes, des merisiers, des noisetiers. Voilà. Ils vont prendre tout ce qu'il y a, pourvu qu'il y ait du feuillage, ça leur va. Ça leur permet de remplir le frigo, donc ils regardent en haut, ils voient s'il y a suffisamment de feuilles et ils coupent.
Et au niveau température, il ne fait pas trop chaud dans le département ?
Si, il fait chaud pour eux. Mais on a quand même la chance d'être dans un département où il y a de l'altitude. Et donc, on a toujours des soirées fraîches, puisqu'on a ces brises descendantes qui viennent de l'altitude. Et donc, le soir, il fait frais et ça leur permet de sortir la soirée. Ils n'iront pas plus au sud de la France, parce que s'il fait encore 25 degrés le soir, pour eux, c'est une très grosse difficulté. Pour réguler leur température, soit ils prennent des bains, soit ils trempent leur queue dans l'eau. Pendant un certain temps, ça leur permet de se rafraîchir. Voilà, tu vois toutes les petites branches là qu'il y a dans l'eau, c'est toutes des branches qui sont restées de leur nourrissage précédent. Donc parfois, notamment ici où on a pas mal de canaux qui servent à l'irrigation pour l'agriculture, c'est gênant pour les agriculteurs qui habitent autour parce que ça va boucher les canaux ou alors ils vont faire des terriers dans les digues des canaux et ça dégrade un peu la berge. Le castor est quand même plus intelligent que le ragondin, c'est-à-dire que le ragondin lui fait des trous n'importe où. C'est aussi un herbivore qui vit près de l'eau, mais le castor lui fait toujours son trou au pied d'un arbre parce que les racines vont maintenir la terre et éviter que le terrier s'effondre. Donc c'est quand même rare qu'un terrier de castor s'effondre. Tu voulais dire quelque chose, Marie ?
Oui, j'avais une question. On disait que le castor fuyait en s'en allant dans l'eau. S'il voyait un prédateur, mais si on est entre le castor et l'eau, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va rester dans la forêt ou nous contourner ou nous passer dessus pour rejoindre l'eau ?
Il nous fonce dessus et il nous mord violemment. Non, il va essayer de fuir l'être humain de toute façon, comme tous les animaux sur cette planète. Et donc il va esquiver en trouvant un autre chemin et en essayant de passer plus loin. Voilà.
On va en profiter pour présenter Marion un peu plus, en fait. Marion, donc, vous venez d'où et qu'est-ce que vous faites auprès de Raphaël Planas cet été ?
Eh ben, je suis en BTS, gestion et protection de la nature, à Rochefort-Montagne, dans le Puy-de-Dôme, donc c'est en Auvergne, où j'étudie comment protéger la nature et la gérer, gérer les espaces naturels et les valoriser auprès d'un public. Et c'est là que j'ai rencontré Raphaël Planas dans le cadre d'un stage professionnel pour ce BTS qui va illustrer et mettre en pratique tout ce que j'ai pu étudier pendant l'année et l'année prochaine. Donc voilà, je passe l'été auprès de Raphaël pour apprendre son métier et voir si ça me, si ça me convient ou pas.
Voilà, merci. Et combien de castors à peu près dans le département ? Est-ce qu'on sait ? Non, rien.
Alors on a des informations, après elles sont toujours à remettre à jour parce qu'on a encore une vision qui est partielle de la présence du castor. On ne sait pas encore jusqu'où il va en remontant les rivières. Toutes les études sont en cours pour essayer de mieux savoir. Donc pour l'instant, pas d'effectif particulier à vous annoncer.
Et l'hiver, qu'est-ce qu'il fait le castor ?
Alors l'hiver, il va rester dans son terrier. Il a fait des réserves avec des branches, avec des feuilles au bout qu'il a mis dans le sol. Et il va ressortir de temps en temps pour manger. Comme les feuilles sont au fond de l'eau, c'est plutôt bien conservé, donc ça lui permet de tenir assez tranquillement. Chez nous, il est quand même pas trop dérangé par la neige. Donc en général, il arrive à ressortir et aller chercher de la nourriture un peu tout au long de l'année quand même.
Il hiberne pas, quoi ?
Non. Non, non.
Un peu, là ?
Non. Non, non. Là, c'est du débroussaillage humain.
Oui, donc c'est toujours près de l'eau qu'on peut les trouver. C'est pas, ils vont pas monter en haut du cousson, par exemple.
Non, pas du tout. Ils restent à 30 mètres de l'eau maximum. C'est leur distance de sécurité, ils vont pas au-delà, donc on est vraiment obligé d'être près d'une rivière pour trouver un castor. Voilà. En montagne, on aura les marmottes à peu près de la même forme et avec la même fonction d'herbivore. Elles vont remplacer le castor, mais elles n'ont pas les pattes palmées. Par contre, le castor, il a des pattes palmées à l'arrière et devant, il a des mains quasiment, c'est-à-dire des pattes très très fines avec 5 doigts. Et il va s'en servir très finement pour pouvoir faire tourner les branches entre ses doigts pour pouvoir manger toutes les feuilles autour, pour pouvoir prendre de la boue pour construire les abords de son terrier. Donc il a une très bonne dextérité avec ses doigts. Là on a toujours le petit canal. On va voir si on retrouve un endroit un peu... Parce que quand... ils aiment bien avoir des endroits pour manger où il y a une surface d'eau assez large. Et donc si c'est des endroits où le débit n'est pas constant, ils vont le rendre constant, eux, en mettant des branchages, en faisant des sortes de petits barrages qui vont maintenir le niveau d'eau. Et du coup, pour qu'ils se sentent en sécurité sur leur territoire, ils essaient de gérer l'eau aussi. Voilà, ils ont cette fonction-là. Donc là, on est en train de longer un petit peu les ruisseaux pour voir si on trouve une sorte de barrage qui serait faite. Ils font pas des barrages comme au Canada où là, ils peuvent avoir un impact incroyable. Ça leur demande beaucoup, beaucoup de travail au Canada puisque ça fait des tonnes et des tonnes de bois qu'il faut déplacer et choisir comment les installer, etc. Nous, ils sont plus pragmatiques, ils vont faire des choses moins construites. Et en général, on a des rivières chez nous qui vont avoir de l'eau quasiment toute l'année. On n'a jamais la Bléone qui est à sec, donc ils arrivent à être à l'aise. D'autant plus là, dans ce secteur où il y a le plan d'eau de Gobert et où du coup les castors ont de l'eau constamment.
La durée de vie d'un castor ?
Dans la nature, on va dire que c'est aux alentours de 5-6 ans. Après, si on est en captivité, ça peut vivre plus longtemps. Mais il y a quand même une mortalité qui va être plus importante dans la nature, les impacts avec les voitures par exemple. Bon, en termes de prédateurs, il n'y en a pas énormément. On peut en citer un qui est le loup, mais ouais. Il n'est quand même pas très présent non plus. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas des populations qui sont très fortes dans le coin. On va regarder juste là. Ah, le canal est plus loin, donc ça va être compliqué de voir. Mais on voit qu'en tout cas, leur territoire, c'est un endroit qui n'est pas accessible pour l'homme. Il y a vraiment des broussailles partout. C'est un endroit où, justement, le castor peut avoir un impact intéressant puisqu'il va éliminer certains arbustes. Il va gérer la forêt, en fait, la forêt riveraine de la rivière ou riveraine de l'eau. Et donc, ça va être intéressant aussi pour l'homme d'avoir cette gestion à ne pas faire.
Donc, peu de prédateurs, mis à part le loup. Et vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas ce que disent les bergers.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que le loup est de plus en plus présent, mais ça peut être une de ses proies. Le loup est un animal qui nage très très bien qui donc peut s'attaquer à cet animal, à ce castor. Bon, il y a les chiens parfois, les chiens errants qui aussi ont un impact. Voilà. Après, l'impact est essentiellement dû à l'activité humaine, les pollutions, les voitures, les choses comme ça.
Et alors un castor, ça peut être, ça peut faire jusqu'à 20 kilos en taille.
Alors le castor en taille, parce que en fait le castor se tient souvent sur deux pattes, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur ses pattes arrière, un peu comme un kangourou. Il est très recroquevillé, donc ça fait une boule qui va avoir la taille d'un chien, un petit peu d'un chien de, oui, ben, d'un chien de 20 kilos, quoi. Ouais. mais ça fait une forme qui est assez imposante. Souvent on le confond avec le ragondin, mais le ragondin ça fait la taille d'un gros chat. Voilà, donc on est sur quelque chose
ça
qui
peut avoir un gros corps, ou une grande queue, parce qu'ils ont c'est comme une palme, hein, c'est ça?
Oui, c'est comme une palme leur queue. Ça leur sert de gouvernail, ça va leur servir d'assiette, puisque en fait les castors vont manger leur nourriture, et notamment pendant l'hiver quand ils n'ont pas trop de feuillage à manger, ils mangent des petites branches, et donc ça leur fait du bois qui n'est pas facile à digérer, et ils vont remanger leur crotte comme le font les lapins par exemple. Donc ils digèrent une première fois, ils remangent, et donc la deuxième digestion ils peuvent récupérer l'essentiel des protéines qui sont présentes. Donc ils se servent de leur que à ce moment-là pour faire comme une assiette, voilà. Et ils s'en servent de gouvernail et puis d'accélérateur pour la nage, voilà. Ils s'en servent pas pour mettre des baffes ou ou pour faire une truelle. Ils se servent de leurs mains, parce que souvent on dit aussi que
donc ils ont deux pattes avant.
Oui, deux pattes avant qui ressemblent à des mains et deux pattes arrière qui sont palmées. Les pattes arrière font la taille de nos mains quasiment, puisqu'elles font 15 cm. Mm-hmm. Donc elles sont vraiment très imposantes par rapport aux petites mains qui sont à l'avant et qui, elles, vont faire 3-4 cm. On a un champ de maïs qui est sur le bord aussi. Et là, ça embête aussi les agriculteurs.
Parce qu'ils mangent aussi ?
Ils aiment bien venir manger. Ouais. Ils mangent la végétation qui est près de l'eau. Oui. Donc là, le maïs, c'est bon. Surtout quand ils sont petits, les maïs, c'est plein de lait et ça leur plaît énormément. Donc ils peuvent avoir un impact sur les maïs ou sur les blés qui sont plantés pas loin du canal. Voilà. Donc ça peut être embêtant.
Un inconvénient.
Effectivement. Ouais. 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 Et on peut comprendre que ça fasse râler les agriculteurs. Voilà, c'est tout à fait audible.
C'est pas audible. Oh, l'aventure. Alors, ceux-là, ils seraient...
Ouais, regarde, ils ont été grignotés. Donc, ouais, c'est bien des maïs qui ont été attaqués par les castors. Donc, on disait qu'ils ont leurs petites pattes avant, qui sont comme des mains, et comme ça, ils peuvent faire tourner l'épi de maïs dans leurs mains. On voit bien que là, ils l'ont arraché et qu'ils ont grignoté. Donc, ouais, toute la ligne, là, on voit bien qu'il y a eu un impact. Bon, c'est pas tout le champ de maïs, non.
Alors,
plus,
c'est pas trop le... Parce que là, les épis sont restés...
Ouais, là, par contre, ça, c'est l'être humain qui est passé. Ah. Mais ceux-là ont été arrachés et les épis ont été grignotés. Donc, on voit bien que c'est un animal qui est venu les manger. Voilà. Il y a cet impact aussi au tout début de la poussée des blés, qui sont au départ pleins de lait aussi. Et ça leur plaît énormément aux castors. Ça plaît aux sangliers aussi, hein. Pas que les castors.
Alors, le sanglier pour la biodiversité...
Ah oui, malheureusement.
C'est quand même assez terrible, le sanglier, les ravages que ça fait.
Oui, les sangliers aujourd'hui, c'est vraiment très problématique. Ils font beaucoup de dégâts. Ils sont difficiles à gérer. Là, on a par exemple des tiges... là, tu vois, qui ont été coupées en biais. Et on voit qu'il y a des traces à chaque fois d'incisives. Ça fait comme si... ça fait pas aussi net que si on avait coupé avec une tronçonneuse ou avec un couteau. On aurait pu couper en biais, ça fait en biseau comme ça. Mais là, on voit l'impact des dents. Ça fait comme des petits escaliers. Voilà. Et ça, c'est un maïs qui a été coupé l'année dernière par les castors. Et là aussi, on le voit de ce côté-là. Donc toujours cette coupe en biseau qui ressemble à une flûte un peu. Et puis au bout, on a toujours une petite tige qui dépasse parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au bout. Donc ils vont faire un côté et l'autre avec la tête penchée comme ça. Et donc ils vont arriver à manger le bout. Donc on voit bien qu'ils viennent se servir dans les maïs, malheureusement. Bon, on va retourner, je pense que...
Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Là, on a des petites empreintes de blaireaux. Donc, il y a quand même beaucoup d'animaux. Hein. On est vraiment juste à côté des maisons. On a les castors qui sont là. On sait qu'on a les sangliers, bien sûr. Et là, on a des pattes de blaireau. Donc, le blaireau, lui, il a une grande voûte plantaire. Et puis, les petits doigts qui sont bien marqués au-dessus. Le blaireau, lui, mange de tout. Voilà. Il vit souvent près de l'être humain aussi. C'est un animal qui est très propre, contrairement par exemple au renard. Le blaireau va avoir un terrier qu'il va nettoyer tous les jours. Il va faire ses crottes dans des toilettes, il va faire des petits trous pour faire ses crottes. Je ne sais pas ça n'importe où, n'importe comment. Voilà. Et c'est un gourmand, il mange un peu tout ce qu'il trouve, mais il aime bien les bonnes choses.
Donc quand on se fait traiter de blaireau, c'est plutôt positif ?
Oui, tout à fait. Moi, je préfère être...
Donc là, on parle essentiellement du castor, mais est-ce que vous êtes spécialisé dans d'autres domaines ? Est-ce que les oiseaux ?
Tous les domaines nous intéressent. Donc c'est vrai qu'on essaye de toucher à tout parce que la nature nous plaît en général et aussi parce que c'est toujours intéressant de voir la complémentarité qu'il y a entre la faune, la flore, entre les différents animaux. Toute la nature, finalement, c'est un vague équilibre qui se crée au fur et à mesure du temps. Et c'est plutôt cette globalité qui nous plaît. Et donc, on peut aborder dans les sorties un peu tous les thèmes. On va souvent faire des sorties avec une thématique particulière parce que parfois, ça attire les gens de parler plus de la lavande ou de parler plus du castor. Mais finalement, on en revient toujours à parler globalement de la nature, de comment elle vit, comment elle s'équilibre, comment elle évolue. Et donc, c'est pour ça qu'on aborde tous les thèmes.
Donc, vous intervenez dans les écoles, essentiellement écoles primaires ?
On fait les écoles maternelles, les primaires, les collèges, parfois en lycée, moins souvent parce que ça devient plus compliqué au point de vue programme aussi, de faire des interventions. Et on a des programmes qui sont organisés avec le conseil général et avec certaines communautés de communes, comme la communauté de communes Moyen Verdon par exemple. Donc ça permet d'intervenir à long terme, plusieurs fois dans les écoles, avec les enfants. Et on essaye de choisir le thème en fonction du travail qui est fait aussi avec les professeurs des écoles. Cette année, on a beaucoup travaillé sur l'eau, par exemple, et la qualité de l'eau sur la vallée de l'Asse. Et c'était intéressant parce que localement, après, les enfants sont concernés par leur utilisation de l'eau, par les pollutions qui peuvent avoir lieu ou pas. Mais en tout cas, ça les concerne au quotidien.
Peut-être pas tarder à sortir, nos chauves-souris. Je peux allumer la boîte box. Hein.
Je pense que...
Alors, maintenant, on guette les chauves-souris, alors. Alors, la chauve-souris, qu'est-ce que c'est, la chauve-souris ? La chauve-souris qui fait peur, parce qu'on a toujours l'impression qu'elle peut se prendre dans nos cheveux quand on passe dans un tunnel.
Alors là, on est encore au bord du plan d'eau de Gobert. La soirée s'est avancée, le soleil s'est couché. On a les dernières hirondelles qui continuent un petit peu à passer au loin. Tant qu'il y a les hirondelles qui volent encore un peu, les chauves-souris, en général, ne sortent pas trop. Mais ça va être l'heure où la faune nocturne se réveille, donc notamment les castors, qui sont pas loin de nous. On verra, on va essayer de regarder si on a des mouvements dans l'eau. Et puis les chauves-souris qui sont bien présentes autour de Gobert aussi. Donc ce sont des bestioles nocturnes, qui sont poilues, qui n'ont pas de poils sur leurs ailes, c'est pour ça qu'on les appelle chauves-souris, et qui se nourrissent d'insectes. Elles mangent à peu près 1000 moustiques par nuit.
Ça, c'est intéressant pour nous.
C'est très, très intéressant pour nous qui sommes au bord du plan d'eau de Gobert en train de nous faire dévorer par les moustiques. Vivement que les chauves-souris sortent. Voilà. Elles sont importantes en France justement pour cet équilibre de la nature puisqu'elles vont manger des insectes. Ce sont des espèces qui ont beaucoup souffert de l'utilisation des pesticides et qui se sont raréfiées en France et en Europe, mais notamment en France. Voilà. Et à Digne, on a la chance d'avoir une agriculture qui est peu intensive. Il y a quand même peu d'utilisation de produits et on a toujours une population de chauves-souris qui est intéressante. Notamment ici, au bord de la Bléone, les villages ne sont pas loin. La chauve-souris aime bien vivre près de l'être humain parce qu'elle va se cacher dans les maisons, elle va profiter de la présence de l'homme pour trouver son habitat. Et on a aussi une forêt qui a des vieux arbres, où il y a des arbres qui sont tombés, peut-être coupés par les castors d'ailleurs. Mais ça les intéresse d'avoir aussi des cavités dans les arbres. Donc elles vont vivre près de l'eau et près des maisons. Donc on est à l'endroit idéal.
Et alors on aurait peut-être la chance de les voir ?
Alors les voir certainement, là on va attendre encore un petit peu et on va les voir, on va voir leur silhouette voler d'ici quelques minutes. Et puis on va pouvoir les entendre puisqu'on est équipé d'une bat box. Alors une bat box, c'est une...
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une boîte qui n'est pas très importante, mais c'est une petite boîte qui transforme les ultrasons des chauves-souris en sons audibles. Donc les ultrasons, ce sont des sons très très aigus dont se servent les chauves-souris pour se repérer. Elles crient en fait et elles vont écouter l'écho de leurs cris pour savoir ce qu'il y a autour d'elles puisque comme nous, elles ne voient pas particulièrement bien la nuit. Après, elles voient de jour, donc elles peuvent se déplacer simplement grâce à la vue. Mais dès qu'il fait trop sombre, elles utilisent les ultrasons. Ça leur permet aussi de repérer les insectes. Donc elles vont repérer leur nourriture grâce à ça. Et donc cette boîte va nous permettre d'entendre de manière audible les ultrasons qu'elles font. En fonction de la fréquence des ultrasons du type de rythme d'ultrasons, on va pouvoir savoir ce qu'elles sont en train de faire et quelle espèce est autour de nous. Voilà pour les chauves-souris autour de nous. Il va falloir encore...
Et alors les oiseaux qui passent, là, qu'on entend par exemple ?
Alors là, on a entendu... Il y a plein d'oiseaux différents qui sont présents autour de nous. Il y a des fauvettes qui sont présentes. Alors les fauvettes, elles font un bruit comme si on frappait deux cailloux l'un contre l'autre. Elles font tchac, 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 tchac. Ça, c'est le bruit qu'elles font quand elles sont en train de défendre leur territoire. On a aussi le martin pêcheur qui est présent au lac de Gobert. Donc très, très bel oiseau bleu métallisé qui va aussi faire son nid dans les digues qui sont sur le bord du plan d'eau. Il fait un terrier, ça ressemble à un terrier son nid, hein, donc c'est un tunnel qui rentre perpendiculairement à la digue sur à peu près 80 cm avec une chambre au fond, voilà, qui va être un prédateur de petits poissons, le martin pêcheur, voilà, et qui ne migre pas pendant l'hiver, qui garde son territoire, même si l'eau est gelée, il y en a parfois qui meurent de faim en restant sur le bord de leur territoire, parce qu'ils n'ont pas ce réflexe de migration comme ont d'autres oiseaux qu'on voit passer. On a vu passer les hirondelles. D'ailleurs, on en voit de moins en moins. Hein. Il y en a quelques-unes, il y en a deux là-bas, mais ça veut dire que les chauves-souris vont sortir. Donc les hirondelles, elles sont des migratrices et elles vont repartir d'ici peu de temps d'ailleurs. Elles ont fait leur petit là maintenant et ben ça va être bientôt la rentrée hein, quand on voit les hirondelles sur les fils. C'est le moment. Hein. C'est pas que je veux casser l'ambiance estivale, mais... Voilà. Et puis on a par des jours de Mistral comme aujourd'hui pas mal d'oiseaux qui sont plutôt marins d'habitude qui vont venir comme des goélands. Ils rentrent dans les terres parce qu'il y a trop de vent en bord de mer et donc ils vont venir se préserver un peu du Mistral en rentrant dans les terres jusque vers chez nous. C'est un moyen de savoir si le Mistral va durer ou pas. Regardez si les goélands sont toujours près de Digne. Si les goélands sont encore là, c'est que le vent ne va pas s'arrêter. Voilà. On a des gros poissons qui passent aussi près de nous. Les silhouettes. Au fond. Tout à l'heure, là, juste là. Les canards font leur toilette. Pareil, hein, les canards, ils sont inversés dans le rythme. La journée, ils se reposent, ils mangent un tout petit peu, mais ils font essentiellement la sieste. La nuit, ils changent de territoire et ils vont à un endroit où ils peuvent se nourrir et s'activer un peu plus fortement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on chasse à la passée souvent. La passée, c'est le déplacement des canards entre l'endroit où ils dorment et l'endroit où ils vont se nourrir pendant la nuit. Donc c'est une chasse qui a lieu dans ces heures-là, là, entre chiens et loups. On va finir notre tour, je pense qu'on les entendra en même temps.
Et l'heure, tu les as entendus l'autre jour?
À 21 et quart. Et il n'avait pas plu avant.
Alors, en attendant l'arrivée des chauves-souris, j'aimerais bien savoir comment vous en êtes arrivé à être naturaliste. Donc, vous avez 33 ans, ça fait déjà 5 ans que vous faites ça?
Ça fait 10 ans que je le fais. J'ai toujours voulu travailler dans la nature. Le rêve, quand j'étais petite, c'était de m'occuper des lions au Kenya. Voilà. Finalement, j'ai trouvé une application concrète et locale de ma passion. Voilà, j'ai fait une formation qui est spécialisée dans la nature, la même que celle que fait Marion aujourd'hui, qui est un BTS agricole qui s'occupe de la gestion et de la valorisation de la nature. Et j'ai suivi cette formation, j'ai travaillé dans des parcs ou dans des réserves à compter les bestioles, à faire des inventaires, voilà. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais échanger avec les gens, partager cette passion et essayer de toucher le plus grand nombre. Donc je suis devenue animatrice, puis professeure dans une maison familiale rurale, voilà, où j'ai transmis mes connaissances à des gens qui allaient après travailler aussi dans la nature. Et aujourd'hui, je suis dans ma région de cœur, qui est les Alpes de Haute-Provence, et j'ai décidé d'essayer de transmettre ma passion pour la nature dans cette région, qui, je trouve, a un patrimoine formidable, où les gens sont intéressés par la nature et la vivent au quotidien, sans forcément toujours se rendre compte de la richesse qu'ils ont par rapport à d'autres régions. Et donc voilà, mon travail, c'est juste de permettre à tous de saisir la richesse qu'il y a et de la vivre pleinement, et de travailler notamment avec les enfants, parce que c'est eux qui vont après, on transmet la planète, on l'a pas à nous, hein, donc c'est eux qui vont après vivre dans cette nature-là et qui vont pouvoir le transmettre à leurs enfants à leur tour.
Vous êtes né à la campagne, vous avez grandi auprès d'anciens qui vous ont appris déjà la faune, la flore, ou c'est venu à l'adolescence?
Non, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une famille, je suis née dans une famille où on aimait la nature, mes grands-parents étaient agriculteurs, et donc j'ai toujours eu un lien à la nature qui était assez fort, donc ça s'est perpétué, et puis j'ai pu l'entretenir, et puis j'ai pu trouver une formation qui m'a permis de vivre ça, donc c'est une chance extraordinaire, et aujourd'hui, chaque jour que je me lève, je me dis... J'ai vraiment une chance superbe d'habiter ici et de voir tout ça et de pouvoir le partager avec des gens qui sont en général heureux d'être dans la nature. L'objectif, alors, c'est de faire découvrir la nature, mais c'est aussi simplement d'être bien, de passer un bon moment comme ce soir. Voilà, on est là, l'atmosphère est douce, le vent s'est calmé, il n'y a personne, on est tranquille. Voilà, c'est juste d'apprécier ça.
Alors, ce cri qu'on entend là, qui ressemble à un lion...
Oui, c'est le paon qui est à côté. Ah, voilà, on a des fermes qui sont toutes proches de Gobert. Et on parlait tout à l'heure des maïs, donc voilà, les fermes sont juste à côté. Donc le paon marque son territoire et appelle la femelle, n'est-ce pas?
Un bon réfectoire.
Ça, c'est
pour
beau,
les
là.
Castors. On voit toutes les herbes qui sont coupées là. De toute façon, c'est tout ce qui reste de leur repas. Il y a des petites branches aussi dans l'eau. Voilà, là, il y a plein d'herbes et c'est vraiment l'endroit idéal pour eux pour manger. Et si on regarde de plus près les arbustes, ben on voit qu'il y a des branches qui ont été coupées un peu partout, même en bas là. Donc ils sont bien venus manger tout au long de l'année dans ces petits sols là. On a les petites foulques qui sortent devant nous, les canards noirs avec le front blanc, avec leurs bébés qui sont derrière là, qui sont en train de couiner. On a faim. Ramène-nous à manger. Les pêcheurs rangent leur matériel. Je sais pas si on les entendra, ils sont un peu loin là.
C'est quoi ce cri?
C'est les bébés foulques.
Ah oui.
Ah, il a mangé des branches, là il en a laissé un peu, il va venir en récupérer d'autres. Il a écrasé tout partout, l'herbe autour.
Ah, tu fais une farce, tu mets à l'eau le truc.
Bon, il sera content. Ce sera plus facile à manger qu'en dehors.
Il faut peut-être s'asseoir ou... Et ça, c'est quoi, ça?
Ça, c'est... j'en sais rien. Mmh. Les vermisseaux chinois, là, tu sais qu'on
est
dans la
soupe. Ah oui. Et c'est pas parce qu'il y a la pleine lune, non, c'est ça, pas de rapport.
Non.
Parce que.
C'est ça, je suis jamais venue écouter là, alors je sais pas, c'est peut-être pas un endroit très propice, pourtant ça me paraît bien, mais bon. On trouvera un autre endroit, on fera une autre sortie.
Ouais.
Ouais.
Donc,
si
pas
tu veux, début septembre, comme ça ça sort plus tôt le soir, elles sont là à 6-7 heures. Ah. Déjà.
Donc pas de chauve-souris.
Non. Ah, faut qu'on fasse une conclusion quand même peut-être.
Oui, oui, allez, une conclusion.
Tiens, je te laisse voir si tu veux.
De cette sortie, Raphaël Planas.
Eh bien, nous avons fait un bon petit tour autour du plan d'eau de Gobert. Les grillons commencent à chanter doucement, on les entend. Les chauves-souris nous entourent, sont parties en chasse, mais visiblement elles ne sont pas trop à côté de nous. Donc on a passé un bon moment, les grillons commencent à chanter autour de nous, quelques fines vaguelettes sur le plan d'eau de Gobert, la lune qui se reflète. On est vraiment dans le calme de la nature. La soirée va s'installer, les castors vont sortir, je pense, d'ici quelques heures. Voilà, on va peut-être pas rester toute la nuit pour les observer.
Non, bah tant pis, on les aura pas vus, on aura vu le travail qu'ils font.
Oui, et puis pour les observer, il faut vraiment venir aux périodes où ils ont besoin de prendre beaucoup de nourriture. Donc ça va être à l'automne lorsqu'ils vont faire leurs réserves. Et puis surtout au printemps, quand ils ont les petits, où ils vont sortir en début de matinée ou fin d'après-midi. Et donc là, ils sont un petit peu plus faciles à observer. Ils restent très discrets parce qu'ils sont peu nombreux et qu'ils craignent la présence de l'homme. Donc, ils restent dans des endroits où on peut difficilement les voir. Voilà.
Ah, les chauves-souris sortent. Ah. Alors, comment on entend avec cette chose à infrasons?
Alors, on va passer un petit peu par là, on va aller voir là. Les chauves-souris donc sortent, chassent le soir et elles vont émettre leurs ultrasons, donc elles vont crier. Et la boîte qu'on a amenée va nous servir
à amplifier
ces sons et à changer leur fréquence pour que nous on puisse l'entendre. Cela dit, on voit à quelle fréquence ça correspond normalement. Et suivant la fréquence, on arrive à définir de quelle espèce il s'agit. Voilà. Elles sont très discrètes ce soir. Il faut dire que tant que aussi elles ont une bonne visibilité, elles n'émettent pas beaucoup puisqu'elles arrivent à voir les obstacles autour d'elles. On entend qu'on n'est pas loin de la civilisation, il y a les motards qui passent. Donc les chauves-souris font un seul bébé par an et la femelle, lorsqu'elle va mettre bas, elle a les hanches tellement serrées qu'elle ne peut pas accoucher normalement. Donc elle va se faire une césarienne avec les dents. Et le petit va sortir par ce petit trou qui sera fait. Il a intérêt à tout de suite s'accrocher aux tétines de sa maman parce que il va, sinon il tombe puisque la maman est à l'envers. Et puis après il va rester accroché pendant quelques jours. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu,
oui,
là, elle est passée
oui.
Très très vite. Voilà. Elle va après se lécher pour que le trou puisse se refermer. Donc elle a tellement d'hormones avec la naissance que du coup elle a une salive qui est très riche et qui va vite cicatriser la plaie. Et puis après elles vont se mettre ensemble les femelles pour faire des sortes de crèches où elles élèvent ensemble leurs bébés. Les mâles eux ne restent pas, les bébés et puis les femelles qui râlent, ça les intéresse pas. Donc ils restent dans les bois seuls ou à groupe de 3 ou 4. Et les femelles, elles peuvent être très très nombreuses. Hein. Ça peut être plusieurs centaines, plusieurs milliers d'individus ensemble pour élever leur bébé. Et donc se relayer aussi pour aller chasser. Il y en a quelques-unes qui restent. Et puis après, quand les mamans reviennent, elles s'occupent de leur bébé.
Donc le temps de gestation d'une femelle de chauve-souris?
Il est extrêmement long, puisque, entre guillemets, puisque la reproduction a lieu en automne.
Donc à l'automne, les mâles vont regrouper les femelles sous forme de harem. Ni femelles ni mâles ne sont fidèles. Donc les femelles vont changer de harem et les mâles vont faire évoluer leur harem aussi. Et là, la femelle va être fécondée, mais le petit ne va pas se développer. Et dès le printemps, dès que la température va remonter, qu'elles vont sortir de l'hibernation, là, le petit va grandir. Hop, on en...
Ah oui.
Voilà, on la voit voler juste au-dessus de nous, là, elle vient de passer. Et donc on a entendu les ultrasons.
Ça, c'est sympa.
Elle est juste au-dessus de nous, là, on la voit passer entre les arbres. Elle est en train de chasser. Donc ça fait cette sorte de petit son qui ressemble à une bille qui tombe un peu d'un escalier. Voilà. Là, on entend un son régulier qui fait tchac, tchac. Ça, c'est un insecte qui lui aussi émet des ultrasons. Alors, il va émettre des ultrasons pour définir son territoire. C'est grâce à cet ultrason que la femelle chauve-souris ou le mâle chauve-souris qui vient de passer au-dessus de nous, certainement un mâle parce qu'il est tout seul là, va lui reconnaître l'insecte et le trouver. Et puis c'est aussi pour eux, parfois pour les insectes, un moyen de brouiller les ondes des chauves-souris. Donc du coup la chauve-souris entend plein d'ondes en même temps, elle n'arrive plus bien à savoir où elle en est et elle est obligée de repartir sur sa chasse et de se reconcentrer. Voilà. On entend plein de sons différents là. Mmh. Si l'insecte est repéré par la chauve-souris alors qu'il est en vol, il a une autre technique pour s'en sortir, c'est de se laisser tomber comme une feuille morte. Et là, la chauve-souris dit « Bah mince, je me suis trompée, je croyais que c'était un insecte, finalement c'est qu'une feuille morte, elle laisse tomber. » Et l'insecte est sauvé.
Ah.
Voilà. Bien sûr, quand elle a quelque chose dans la bouche, elle est obligée de se poser, puisqu'elle ne peut plus émettre d'ultrasons. Donc, elle se pose, elle avale, et puis après, elle repart en chasse. Elle chasse au début de la soirée, comme ça, pendant quelques heures. Ensuite, elles vont se reposer. Et après, elle rechasse à plusieurs moments comme ça dans la nuit. Elle chasse pas de manière continue toute la nuit. Voilà. Parce qu'elle va revenir chasser par là.
Bon, moi, je reste encore sous le choc de la césarienne. Incroyable.
Ouais. Alors, c'est pas comme les souris. Hein. Ça fait un seul petit par an. Par contre, ça a une durée de vie très longue, les chauves-souris. La chauve-souris la plus vieille qu'on ait connue, parce qu'elle était baguée, on a pu savoir son âge, et elle avait 33 ans. Donc ça a une durée de vie très longue et ça produit peu de bébés. C'est pas comme les souris qui vont produire 10-20 bébés par an. Voilà, c'est pas du tout invasif. On a souvent cette appréhension, il y a des chauves-souris dans la maison, oh là là, il va y en avoir plein. Non, il peut rester un groupe de 2-3 chauves-souris dans une maison et qui ne va pas évoluer au fur et à mesure des années, d'autant plus qu'il y a beaucoup de mortalité lors de la première année. Donc c'est des populations qui évoluent très très lentement et qui sont quasiment toutes en stagnation, voire en déclin en France. Voilà, pendant l'hiver, elles vont hiberner. Donc pour trouver des lieux pour hiberner, il faut que ce soit des lieux qui restent humides, mais où la température ne descende pas en dessous de zéro. Donc en général, des grottes, des caves, des églises. Derrière les tentures des églises, elles viennent bien. Voilà, et elles vont passer l'hiver, donc elles vont beaucoup engraisser à l'automne. Elles vont devenir très dodues et elles passent l'hiver sur leurs réserves. Si la température réaugmente pendant l'hiver, ce qui arrive souvent, qu'on ait des périodes un peu plus douces, elles vont se réveiller. Souvent, elles ne trouvent pas de nourriture et ces périodes de réveil leur font perdre énormément de graisse. Et donc, quand il y a un redoux pendant l'hiver, les gens qui aiment les chauves-souris craignent cette période-là parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de mortalité si jamais il y a de nouveau un coup de froid après derrière.
Et alors, les gens qui aiment les chauves-souris, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider, ces pauvres chauves-souris?
Pour les aider, il faut... Hop, vous avez entendu, là, il y en a une qui revient. Voilà. Là. Elle n'est pas loin de nous, elle est en train de chasser dans les arbres devant nous. Pour les aider, il faut favoriser la présence des insectes et favoriser leurs abris. La présence des insectes, ça peut être tout simplement faire un petit jardin de papillons qui aide les papillons devant son balcon, ou etc. Ça fait venir les insectes et ça va intéresser les chauves-souris. Il faut éviter d'utiliser des produits qui tuent les insectes. D'une part parce que c'est très mauvais pour notre santé, et ça on s'en rend pas forcément compte quand on met la prise chez nous anti-insectes, mais on favorise grandement notre mal-être. Et puis, parce que c'est nocif pour les chauves-souris. L'autre chose qui peut les aider, c'est de favoriser leurs abris. C'est-à-dire, par exemple, si chez vous, vous avez des volets, mais qu'il y a une pièce qui est à l'étage, par exemple, et dont la fermeture du volet n'est pas utile, laissez le volet ouvert. Elle va, elle, rester pendant toute la période estivale derrière votre volet. Elle va dormir là pendant la journée, parce que ça va être un endroit super chaud. Et par contre, elle va vous favoriser vos soirées de barbecue, puisque comme ça, vous serez moins mangé par les moustiques. Voilà. Ça veut dire laisser des petits endroits, parfois sous la toiture, où on aurait tendance à boucher tous les trous, ben, on laisse un petit trou. Une chauve-souris, elle rentre dans un trou qui fait 1 cm de large. Donc, c'est pas forcément des trous gigantesques qu'il faut laisser. Mais un petit abri, ben, pour elle, ça peut être l'occasion de passer un hiver tranquille. Et puis, ça peut favoriser une population. Et on peut installer aussi ce qu'on appelle des gîtes à chauves-souris. Donc, ce ne sont pas des nichoirs, puisqu'elles n'ont pas besoin de ça, puisqu'elles ne font pas de nid. Par contre, ces gîtes, ce sont des petites cabanes à l'intérieur desquelles, qui n'ont pas de fond. Et à l'intérieur desquelles, sur l'un des pans de la cabane, on met un petit grillage auquel elles peuvent s'accrocher. Donc elles vont se poser à reculons et elles vont remonter à l'intérieur de cette petite cabane. Il n'y a pas besoin d'une fente très très large dans la cabane, ça peut être une cabane qui fait 5 cm de large. Mais elles vont rentrer à l'intérieur, elles vont se poser là pendant la journée, elles auront chaud. Elles n'aiment pas les courants d'air, donc voilà, elles cherchent des endroits à l'abri des courants d'air. Et au contraire, si vous avez des chauves-souris chez vous et que ça vous embête, parce qu'elles font pipi sur la laine de verre, parce qu'elles font des crottes le long du mur, eh bien faites des courants d'air chez vous, mettez un peu de musique pendant 2-3 jours et ça va les faire partir sans souci. Il n'y a pas besoin de les massacrer ou de mettre des produits. Elles vont aller s'installer ailleurs parce qu'elles ne supportent pas le dérangement et elles ont horreur des courants d'air. Donc si vous laissez ouvert 2 jours, elles vont comprendre que ce n'est pas un endroit agréable pour elles. Voilà, on a entendu les chauves-souris. Ouais.
Voilà, on a la sensation de ne pas partir bredouille, quoi.
Oui, voilà. Elle est juste au-dessus de nous. Mais elle fait ça timide.
Et Marion, alors, la nature dans les Alpes de Haute-Provence par rapport à l'Auvergne, les espèces différentes, qu'est-ce que vous découvrez? Ça fait un mois que vous êtes là?
Je suis. Là, on entend une belle chauve-souris qui vient de passer tout près. Ouais. Je suis arrivée mi-juin et ça fait donc un mois et demi que je suis là et je me rends compte que la nature est pas exactement la même à cause du climat, mais qu'il y a certains endroits, comme Raphaël m'a expliqué, par exemple dans des cours d'eau d'altitude, où on peut retrouver plus ou moins les mêmes espèces qu'en Auvergne, car il y a des espèces qui ont juste besoin de l'eau et de fraîcheur, et du coup ça correspond au climat que j'ai chez moi en Auvergne. Et les animaux sont relativement identiques. En animation, par exemple, on peut parler des mêmes choses, comme la chauve-souris, par exemple, hein, qu'on a ici comme en Auvergne. Et voilà, on a peut-être plusieurs espèces que je ne pourrais pas citer là, je ne les ai pas en tête, mais qui sont peut-être propres à ce département, dans la mesure où il a des montagnes et un climat provençal qu'on n'a pas en Auvergne, par exemple. Voilà.
Et donc, dès la fin de ces 2 mois de stage, vous allez faire quoi?
Eh ben, je vais reprendre mon BTS, ma 2e année, pour finir d'apprendre tout ce qu'il faut sur le naturalisme, les espèces de la faune, de la flore et les techniques d'animation, pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais et que j'aime aux enfants ou au grand public, selon ce que je me destinerai à faire.
Merci.
Bon, bah, c'est l'heure de l'apéro.
Mais non.
On est dans le sud, hein, c'est ça. Bon, ben, Raphaël Planas, merci pour cette sortie et j'espère qu'il y en aura d'autres. Peut-être en automne, alors, la prochaine, enfin, vous...
Oui, on peut envisager d'autres sorties selon la saison. À l'automne, on pourrait, par exemple, aller écouter le brame du cerf.
Oh, c'est pas vrai, il y a des cerfs ici?
Bien sûr qu'il y a des cerfs en Haute-Provence. Et en plus, ils brament.
Eh ben alors, volontiers. Hein.
Rendez-vous fin septembre pour le brame du cerf. Alors, il faut monter un petit peu en altitude, là, pour cette fois.
Ah, ce sera un peu plus sportif, alors.
Un peu plus sportif que le plan d'eau de Gobert. Cela dit, comme d'habitude, quand on fait une sortie naturaliste, c'est pas le sport qui compte, c'est l'observation. Donc, on fera pas 20 km avec un dénivelé de 2000 mètres. On fera encore une toute petite balade, mais il faudra la faire pareil le soir. Et on profitera de la nature en ayant un pull parce qu'on sera aux alentours de 1000-1500 mètres d'altitude.
Merci.
Merci à toi. À vous, à toi.